Chapitre 4. Dan-Tet. 1. Alors que l'heure du bébé approchait, Susanna Dean jeta un regard autour d'elle, faisant de nouveau le décompte de ses ennemis, comme Roland le lui avait enseigné. « Tu ne dois jamais dégainer, » lui avait-il appris, « avant de savoir combien sont contre toi, ou bien avant d'être sûre et certaine que tu n'as aucun moyen de le savoir. » Ou bien avant d'avoir décidé que le jour de ta mort est venu. Elle aurait donné cher pour se débarrasser de cet horrible casque qu'on lui avait fixé sur la tête, qui lui perforait le cerveau et déchiffrait ses pensées. Mais, quel que fût cet engin, il se souciait peu des calculs de Susanna, ce qui était décidément une bonne chose. Il y avait Seyr, le grand chef, l'ignoble, avec un de ses yeux rouges sanguinolents vibrant au milieu du front. Il y avait Scotter, le médecin penché entre les jambes de Mia, se préparant à officier pour l'accouchement. Seyr avait légèrement malmené le docteur quand ce dernier avait fait preuve d'un petit peu trop d'arrogance, mais ça n'avait pas l'air d'avoir nui à son efficacité. 5 autres ignobles venaient compléter l'équipe de Seyr, mais elle n'avait retenu que 2 de leurs noms. Celui avec les bajoux de bulldog et le double bide dégoulinant s'appelait Haber. À côté d'Haber se tenait la chose oiseau avec les plumes marrons sur la tête et les yeux vicieux de faucon. Son nom semblait être Jay, ou peut-être G. Ça en faisait 7. Tous armés de ce qui ressemblait à des armes automatiques, rangées dans des crocs de débardeur. Celui de Scotter pointait négligemment sous sa blouse blanche, à chaque fois qu'il se baissait. Susanna avait déjà décidé que ce serait le sien. Elle avait aussi dénombré 3 choses humanoïdes, pâles et attentives, au-delà du lit de Mia. Ceux-là, avec leur aura bleu sombre, c'étaient les vampires. Susanna en était pratiquement certaine. Sans doute du genre que leur avait décrit Callahan, les types 3. Une fois, le père les avait appelés requins-pilotes, ce qui faisait 10. 2 des vampires portaient des bas, le 3e une sorte de sabre électrique, qui en veille ne formait qu'un bâton luminescent. Si elle réussissait à s'emparer de l'arme de Scotter, quand tu réussiras à t'en emparer, ma grande, corrigea-t-elle. Elle avait lu la puissance de la pensée positive et elle croyait toujours en chacune des paroles du révérend Peel. Elle commencerait par s'attaquer à l'homme au sabre électrique. Dieu seul savait les ravages qu'une telle arme pouvait engendrer, mais Susanna Dean n'avait pas très envie de le découvrir par elle-même. Elle nota aussi la présence d'une infirmière à tête de ragondin gris. L'œil rouge et pulsatile au milieu de son front fit penser à Susanna que la plupart des autres Folken, ignobles, portaient des masques humains, sans doute pour ne pas effrayer leur gibier en se baladant dans les rues de New York. Peut-être n'avaient-ils pas tous l'air de rats en dessous, mais elle aurait juré qu'aucun d'entre eux n'avait le physique de Cary Grant. L'infirmière à tête de rongeur était la seule dans la pièce à ne pas porter d'armes, du moins à ce que pouvait en voir Susanna. 11 en tout. 11 dans cette vaste infirmerie quasi déserte qui ne se situait pas dans les entrailles de Manhattan, contrairement à ce qu'on essayait de lui faire croire. Et si elle voulait leur régler leur compte, il lui faudrait passer à l'action pendant qu'il s'occuperait du bébé de Mia, de son précieux petit gars.
« Docteur, il arrive !»
s'exclama l'infirmière, transportée d'excitation. Et il arrivait, en effet. Susanna dut s'arrêter de compter sous la violence de la douleur qui la terrassa. Qui les terrassa toutes deux, les enterrant vivantes. Elles hurlèrent en tandem. Scotter ordonnait à Mia de pousser maintenant. Susanna ferma les yeux et se mit à pousser de concert, car c'était aussi son bébé, ou ça l'avait été. Et lorsqu'elle sentit la douleur s'échapper d'elle, comme un tourbillon d'eau filant dans un égout noir, elle ressentit un chagrin tel qu'elle n'en avait jamais connu. Car c'était en Mia que le bébé s'enfuyait. Les dernières lignes du message vivant que le corps de Susanna avait été conçu pour transmettre. C'était la fin. Quoi qu'il pût arriver ensuite, c'était la fin de cette aventure-là, et Susanna lâcha un cri de soulagement et de regret mêlé. Un cri qui était en soi comme un chant. Et alors, avant que ne commence l'horreur, cette chose tellement terrible qu'elle s'en rappellerait chaque détail comme si un projecteur était braqué dessus, et ce, jusqu'à son entrée dans la clairière au bout du sentier. Elle sentit l'emprise d'une petite main bouillante autour de son poignet. Susanna tourna la tête, balançant ce faisant le poids malfaisant du casque. Elle entendait ses propres allaitements. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Mia. Mia entr'ouvrit les lèvres et prononça une seule parole. Susanna l'entendit résonner au-dessus des rugissements de Scotter. Il était penché et scrutait l'entrejambe de Mia, brandissant les forceps à hauteur de son front. Pourtant, elle l'entendit bel et bien, et comprit que Mia tentait de tenir sa promesse. « Je te libérerai si j'en ai l'occasion », lui avait dit sa ravisseuse. Et ce mot que Susanna entendait à présent en esprit et déchiffrait sur les lèvres de la femme en plein travail était « vol ». « Susanna, tu m'entends ?»«
Je t'entends très bien », répondit Susanna.
« Et tu comprends notre marché ?»«
Si fait. Je t'aide à t'échapper avec ton petit gars si je le peux. Et toi ?»«
Tue-nous, si tu n'y parviens pas !» acheva la voix de Mia avec férocité. Jamais elle n'avait crié si fort. C'était en partie dû aux câbles qui les reliaient l'une à l'autre, en déduisit Susanna.
« Dis-le, Susanna, fille de Dan. Je vous tuerai tous les deux si tu... »
Elle s'interrompit. Mia semblait satisfaite, ce qui était une bonne chose, car Susanna n'aurait pu poursuivre si leur devis en dépendait. Son regard s'était posé sur l'immense plafond de cette pièce gigantesque, au-dessus des rangées de lits. Et là, elle aperçut Eddie et Roland. Ils étaient flous et flottants, apparaissant et disparaissant au plafond, la dévisageant comme des poissons fantômes. Une autre douleur la frappa, moins fort cette fois-ci. Elle sentait ses cuisses se durcir, pousser, mais tout ça lui semblait très loin, sans importance. Ce qui comptait, c'était de savoir si ce qu'elle voyait était bien réel. Était-il possible que son esprit à bout de force, tentant de s'échapper par tous les moyens, ait pu créer une hallucination pour la soulager? Elle le croyait presque. Elle l'aurait sans doute cru s'ils n'avaient pas été tous les deux nus comme des vers et entourés d'un ramassis de vieilleries. Un bloc-notes, une cacahuète, des cendres, un pénis. Et un tapis de sol, bon Dieu, un tapis de sol de voiture, avec la marque Ford imprimée dessus.
« Docteur, j'aperçois la... »
Un râle indigné accueillit l'intrusion de Scotter qui, en parfait gentilhomme, bouscula sans ménagement l'infirmière tête de rat pour se rapprocher du giron de Mia. Peut-être avec l'intention d'extirper le petit gars avec les dents, qui sait. La chose faucon, Jay ou G, discutait avec Haber dans un dialecte bourdonnant et surexcité.
« Ils sont vraiment là ?»
se dit Susanna.
Ce tapis de sol en est la preuve.
Elle aurait été incapable de dire en quoi le tapis de sol constituait une preuve de quoi que ce soit, mais elle le savait. Et elle murmura le mot que Mia lui avait donné. Vol. C'était un mot de passe. Il ouvrirait au moins une porte, peut-être un grand nombre de portes. Il ne traversa pas l'esprit de Susanna de mettre en doute la parole de Mia. Elles étaient liées. Pas seulement par le câble et ses casques qui les maintenaient attachés ensemble, mais par l'acte bien plus primitif et ô combien plus puissant de donner la vie. Non, Mia n'avait pas menti. « Tu vas pousser, espèce de sale garce, bon Dieu !» rugit Scotter. Et Roland et Eddie disparurent tout à coup pour de bon, comme balayés par la force du souffle de cet homme. Susanna se tourna sur le côté, sentant ses cheveux collés à son crâne par paquets, consciente de la sueur que déversait son corps par litres entiers. Elle se hissa un peu plus près de Mia, un peu plus près de Scotter, un peu plus près de la crosse assurée de l'arme automatique de Scotter.
Reste tranquille, Frangine. Écoute-moi, je te prie, fit l'un des ignobles en lui touchant le bras.
Il avait la main froide et flasque, recouverte de gros anneaux graisseux. Sous la caresse, elle sentit sa peau rétrécir.
Ce sera fini dans une minute, et alors tous les mondes changeront. Quand ce petit-là rejoindra les briseurs à tonne foudre.
La ferme, Stroh !
Aboya Haber, en repoussant en arrière la créature qui tentait de consoler Susanna. Puis il se concentra de nouveau sur l'accouchement. Mia arqua le dos en gémissant. L'infirmière à tête de rat posa les mains sur les hanches de la jeune femme et les repoussa doucement vers le lit.
« Kenenny, Kenenny, pousse avec le ventre !»«
Bouffe ta merde, espèce de salope !» hurla Mia. Susanna ne ressentit qu'une faible réplique de sa contraction, une vague douleur, puis plus rien. Le lien entre elles s'amenuisait. Réunissant tout son pouvoir de concentration, Susanna s'écria au cœur de son propre esprit.
« Hé, Madame Positronix, toujours là ?»«
La connexion est coupée, » répondit l'aimable voix de femme.
Comme la première fois, elle parlait au centre de la tête de Susanna, mais cette fois-ci elle lui parut affaiblie. Pas plus dangereuse qu'une voix à la radio qu'on entend brouiller à cause des interférences atmosphériques.
Je répète, la connexion est coupée. Nous espérons que vous garderez un bon souvenir de North Central Positronics et que vous vous adresserez à nous pour toutes vos opérations cérébrales. Sans oublier Sambra Corporation, leader de la communication d'esprit à esprit depuis des millénaires.
Un « bip » à faire grincer les dents stria le cerveau de Susanna, puis le lien disparut complètement. Pas seulement la voix de l'hôtesse de l'air exaspérante, mais aussi tout le reste. Elle avait l'impression qu'on venait de lui retirer un corset très serré et douloureux. Mia poussa un nouveau hurlement et Susanna émit un cri bien à elle. En partie parce qu'elle refusait que Seyr et ses sbires sachent que la connexion entre Mia et elle s'était brisée, mais aussi par pur chagrin. Elle avait perdu une femme qui était devenue, en quelque sorte, une vraie sœur.
« Susanna, est-ce que t'es là ?»
Elle sursauta et se redressa sur un coude en entendant cette nouvelle voix, oubliant complètement la femme à ses côtés l'espace d'une seconde.
C'était « Jack, c'est toi, trésor, c'est toi, pas vrai? Tu m'entends ?»«
Oui !»
s'exclama-t-il. « Enfin, bon Dieu, à qui tu parlais? Continue à hurler, que je puisse venir dans ton esp... »
La voix se tut, mais elle eut le temps d'entendre la pétarade d'une fusillade en arrière-plan. Jack, tirant sur quelqu'un? Elle se dit que non, elle pensait plutôt que c'était lui qu'on tirait.
« Maintenant !» brailla Scotter. « Maintenant, Mia, pousse ! C'est maintenant ou jamais ! Donne tout ce que tu as ! Pousse !»
Susanna tenta de rouler plus près de l'autre femme.
« Oh, je suis inquiète. J'ai besoin de réconfort. Regardez comme je suis inquiète. Tout ce que je veux, c'est un peu de réconfort pour calmer mon inquiétude, c'est tout !»
Mais le type du nom de Stroh l'attira en arrière. Le câble en métal segmenté se balança et s'étira entre eux.
« Garde tes distances, espèce de garce !» fit Stroh.
Et pour la première fois, Susanna entrevit la possibilité de ne pas réussir à s'emparer de l'arme de Scotter. Ou d'aucune autre arme, d'ailleurs. Mia hurla de plus belle, implorant un dieu étrange dans une langue étrange. Lorsqu'elle essaya de soulever sa taille de la table d'opération, l'infirmière. Alia, Susanna croyait se rappeler que l'infirmière s'appelait Alia. La força à baisser les hanches et Scotter lâcha un aboiement bref qui semblait exprimer de la satisfaction. Bientôt il reposa les forceps qu'il brandissait.
« Pourquoi faites-vous ça ? »
demanda Seyr. Sous les jambes tendues de Mia, les draps étaient détrempés de sang et le patron avait l'air agité.
On n'en a plus besoin, répondit Scotter d'un ton jovial. Elle a été taillée pour faire des bébés. Elle pourrait accoucher en pleine rizière et sans manquer un grain de riz à la cueillette. Et le voilà, comme du papier à musique.
Scotter fit mine d'empoigner l'énorme bassine posée sur le lit voisin, puis se ravisa en semblant comprendre qu'il manquait de temps et engouffra directement ses mains roses et sans gants entre les cuisses de Mia. Cette fois-ci, lorsque Susanna fit un effort pour se rapprocher de Mia, Stroh n'intervint pas. Tous autant qu'ils étaient ignobles et vampires, observaient la scène de la nativité avec une fascination absolue. Pour la plupart agglutinés au pied des deux lits qu'on avait réunis en un seul. Seul Stroh se trouvait près de Susanna. Le vampire au sabre de feu venait de se faire rétrograder. Elle décida que Stroh serait le premier à trinquer. « Encore une fois !» s'époumona Scotter. « Pour ton bébé !» Tout comme les ignobles et les vampires, Mia avait oublié Susanna. Ses yeux blessés, submergés de douleur, étaient fixés sur Sayre.
« Est-ce que je pourrai la voir, monsieur? Je vous en prie. Dites que je pourrai la voir, même pour un tout petit moment. »
Sayre lui prit la main. Le masque qui lui recouvrait le visage sourit. « Oui, ma chérie, le petit gars est à toi pour des années et des années. » Pousse seulement une dernière fois.
Mia, ne crois pas un mot de ces mensonges!
Hurla Susanna, mais son cri se perdit. C'était peut-être aussi bien. Il valait mieux qu'on l'oublie complètement pour l'instant. Elle concentra ses pensées dans une nouvelle direction.
Jake? Jake, où es-tu?
Pas de réponse. Pas bon signe. Plaise à Dieu qu'il fût toujours en vie.
Peut-être qu'il est juste occupé, à s'enfuir, à se cacher, à se battre. Le silence ne signifie pas forcément que...
Mia émit ce qui ressemblait à un chapelet d'obscénité, tout en poussant. Les lèvres de son vagin déjà distendu s'ouvrirent plus larges. Un flot de sang soudain s'échappa d'elle, élargissant l'auréole en forme de delta qui souillait à présent les draps. Et tout à coup... Sur fond d'océan écarlate, Susanna vit apparaître une couronne noire et blanche. Le blanc, c'était la peau, et le noir, la chevelure. La tache noire et blanche parut se rétracter, et Susanna crut un instant que le bébé essayait de faire machine arrière, pas prêt à affronter le monde. Mais Mia était au bout de sa patience. Elle poussa avec une puissance considérable, ses poings serrés et tremblants devant ses yeux plissés et découvrant les dents. Une veine pulsait dangereusement au milieu de son front. Une autre apparut le long de son cou.
« Hi-ha !»
hurla-t-elle.
« Komala, espèce de petit bâtard ! Viens comme à Komala !»
Dan-tête. Murmura Jay, la chose faucon. Et les autres reprirent l'incantation en chœur dans un chuchotement plein de déférence.
Dan tête, Komala Dan tête.
La venue du petit dieu. Cette fois-ci, la tête du bébé sembla se précipiter dehors. Susanna vit ses mains repliées sur sa poitrine ensanglantée, avec ses minuscules poings tremblants de vie. Elle vit des yeux bleus, grands ouverts, et fut frappée par leur maturité et leur ressemblance avec ceux de Roland. Elle vit des cils noirs de jais. De minuscules gouttelettes de sang les ornaient, comme une parure natale barbare. Susanna vit, et elle sut qu'elle ne l'oublierait jamais. La lèvre inférieure du bébé ripait une seconde sur la lèvre de la vulve de sa mère. La bouche du bébé s'entr'ouvrit, révélant une rangée de petites dents parfaitement alignées sur la mâchoire inférieure. C'était bien des dents, pas des crocs, mais de petites dents parfaites. Pourtant, les voir dans la bouche d'un nouveau-né donna la chair de poule à Susanna. De même que la vision du pénis de l'enfant, totalement disproportionné et en pleine érection. Susanna évalua qu'il était plus long que son petit doigt à elle. Dans un rugissement de douleur et de triomphe, Mia se dressa sur les coudes, les yeux saillants et baignés de larmes. Elle tendit les bras et saisit la main de Seir avec une poigne de fer au moment où Scotter s'emparait adroitement du bébé. Seir poussa un glapissement et tenta de se dégager, mais autant essayer de se débarrasser de... eh bien, d'un shérif adjoint d'Oxford dans le Mississippi. La petite incantation s'était tue, et il y eut un instant de silence éberluet. Grâce à son ouïe surentraînée, Susanna entendit clairement les os du poignet de Seir s'écrabouiller.
« Est-ce qu'il est vivant ?»
hurla Mia à la face de Seir affolée.
« Dis-le-moi, espèce de fils de pute vérolé, dis-moi si mon petit gars est vivant !»
Scotter souleva le petit gars à hauteur de son visage, de sorte qu'ils se retrouvèrent tous deux face à face. Les yeux marrons du médecin rencontrèrent le regard bleu acier du bébé. Et tandis que le petit gars restait là, suspendu entre les mains de Scotter, son pénis tendu d'un air de défi, Susanna vit distinctement la marque écarlate sur le talon gauche de l'enfant, comme si ce pied avait été trempé dans le sang juste avant que le corps du bébé quitte la matrice de Mia. Plutôt que de lui tapoter les fesses, Scotter souffla par petits coups directement dans les yeux du petit gars. Le bébé de Mia cligna des paupières en une mimique comique et indéniablement humaine de surprise. Il inspira à son tour, retint son souffle une seconde, puis laissa l'air s'échapper. Il avait beau être le roi des rois, ou le pourfendeur de tous les mondes. Il entrait dans l'existence comme l'avaient fait tant d'autres avant lui, dans un braillement d'indignation. Mia fondit en larmes de reconnaissance en entendant ce cri. Les créatures démoniaques réunies autour de la nouvelle mère étaient peut-être les esclaves du roi cramoisi, mais cela ne les rendait pas pour autant insensibles au spectacle auquel elles venaient d'assister. Il y eut un tonnerre de rires et d'applaudissements. Susanna constata avec dégoût qu'elle se joignait instinctivement à eux. Le bébé balaya les alentours du regard avec une expression ébahie. Sanglotante, les larmes lui ravinant les joues et la morve lui coulant du nez, Mia tendit les bras.
« Donnez-le-moi !»
pleurnicha-t-elle. Ainsi pleurnichait Mia, fille de personne et mère d'un seul.
« Laissez-moi le tenir. Je vous en supplie. Laissez-moi tenir mon fils. Donnez-moi mon petit gars. Donnez-moi mon précieux !»
Et au son de la voix de sa mère, le bébé tourna la tête. Susanna aurait cru une telle chose impossible, mais elle aurait cru tout aussi impossible de voir naître un enfant totalement éveillé, avec une bouche pleine de dents et une érection de tous les diables. Pourtant, hormis ces détails, le bébé lui semblait parfaitement normal, grassouillé et bien formé, humain. Et donc, chérie, il y avait bien cette marque rouge sur son talon, mais combien d'enfants, par ailleurs complètement normaux, naissaient avec une tache de naissance ou une autre minuscule anomalie? Son propre père n'était-il pas né avec une main rouge, selon la légende familiale? Quant à cette marque, on ne la verrait même pas, sauf peut-être à la plage. Tenant toujours le nouveau-né près de son visage, Scotter jeta un regard à Seir. Il y eut un instant suspendu, pendant lequel Susanna aurait aisément pu s'emparer de l'automatique de Scotter. L'idée ne lui traversa même pas l'esprit. Elle avait oublié le cri télépathique de Jake. Elle avait oublié aussi facilement la visite étrange de son mari et de Roland. Elle était aussi fascinée que Jay, Straw, Haber et toute la clique, fascinée en cet instant précis par l'arrivée d'un enfant dans ce monde éreinté. Seir hocha la tête de manière quasi imperceptible et Scotter déposa bébé Mordred, qui gémissait toujours et qui regardait toujours par-dessus son épaule, vraisemblablement en direction de sa mère. dans les bras impatients de Mia. Mia le tourna et le retourna pour pouvoir le contempler, et le cœur de Susanna se glaça de désarroi et d'horreur. Car Mia était devenue folle. C'était là, dans ses yeux, criant d'évidence. C'était dans la façon qu'avait sa bouche de se tordre et de sourire en même temps, tandis que de la bave rosie et épaissie par le sang de sa langue qu'elle avait mordue lui dégoulinait sur le menton. Et surtout, c'était dans son rire triomphal. Peut-être reviendrait-elle à la lucidité dans les jours à venir, mais « Ce gars va jamais revenir !» intervint Déta sans aucune compassion. « L'étale est au loin. Puis il a fallu qu'elle s'en débarrasse, c'est tôt pour elle. Elle a pété un câble, tu le sais aussi bien que moi. »«
Oh, quelle beauté !»
ronronna Mia.
« Oh, vois tes yeux bleus, ta peau aussi blanche que le ciel avant les premières neiges de la pleine terre. Vois tes tétons, ces petites baies parfaites. Vois ta bite et tes couilles aussi lisses et douces que de la peau de pêche. »
Elle jeta un regard autour d'elle. D'abord vers Susanna, la dévisageant sans la reconnaître le moins du monde, à l'évidence. Puis vers le reste de l'assemblée.
« Regardez un peu, mon petit gars, bande de misérables, bande de goniques, mon précieux, mon bébé, mon garçon !»
leur hurla-t-elle, leur cracha-t-elle au visage comme un ordre, riant avec ses yeux déments et pleurant avec sa bouche tordue.
« Voyez pourquoi j'ai renoncé à l'éternité. Voyez mon Mordred. Voyez le bien, car jamais plus vous n'en verrez de tel que lui. »
En haletant violemment, elle couvrit de baisers le visage sanguinolent et effaré du bébé, se souillant la bouche au point de ressembler à une ivrogne qui aurait essayé de se mettre du rouge à lèvres. Elle riait en embrassant le pli rebondi dans le cou de son enfant, ses tétons, son nombril, le petit bout saillant de son pénis, et le brandissant de plus en plus haut dans ses bras tremblants. Cet enfant qu'elle voulait appeler Mordred et qui la fixait avec ce regard comique et ahuri, elle embrassa ses genoux et chacun de ses pieds minuscules. Et ce fut le premier bruit de succion que Susanna devait entendre dans cette pièce. Non pas celui du bébé tétant sa mère, mais celui de la bouche de Mia embrassant les deux petits pieds parfaits.